Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Henri Amouroux, bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Vous êtes historien, journaliste, chroniqueur au Figaro, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire et aussi des ouvrages de reportage. Et vous venez de signer un livre qui s'intitule « Trois fins de règne ». Ce sont les règnes de Charles de Gaulle, de François Mitterrand et celui de Jacques Chirac, aux éditions Jean-Claude Lattès. Nous venons d'évoquer la fin de règne de Charles de Gaulle, puisqu'on appelle ça des règnes dans votre livre. Et venons-en à présent aux derniers jours de pouvoir de François Mitterrand, plutôt aux dernières années. Et pour parler de ces dernières années, vous faites remonter au premier jour où François Mitterrand était à l'Élysée. Vous faites remonter cette fin de règne au 13 juillet 1970, où déjà François Mitterrand s'interroge sur la mort, sur l'après. Et c'est quand même une drôle façon de commencer. Il commence par la fin, en fait.
Non, François Mitterrand, c'est moi qui commence par la fin.
Enfin, c'est vous qui commencez ce chapitre de François Mitterrand par cette anecdote.
Je vais vous expliquer. Je fais une confidence. Je n'ai jamais voté pour M. Mitterrand. Mais, nouvelle confidence, le personnage m'a toujours beaucoup intéressé. C'est un problème de densité. Hein ? C'est important, la densité. Chez un homme, chez une femme aussi. Mais chez un homme politique, c'est important, la densité. Alors, voilà, moi j'avais été très frappé parce que vous avez évoqué le 13 juillet 1970. Qu'est-ce qui se passe le 13 juillet 1970 ? C'est qu'on enterre...
Les obsèques de Félix Gaillard.
De Félix Gaillard, on enterre à Barbezieux... Félix Gaillard, qui était l'avant-dernier président du Conseil de la 4e République. Après lui, M. Flimelin, puis après, c'était le général de Gaulle, à la suite des événements de mai 1958. Félix Gaillard était un homme jeune, charmant, sympathique, j'ai connu. C'était un homme très, très sympathique et qui aurait été promis un grand avenir, certainement. Et il aimait aussi, il aimait le bateau, il faisait une croisière au large des îles anglo-normandes, puis il faisait deux jours de croisière, il faisait la popote, la cuisine, le réchaud explosé, je ne sais pas. Bref, son bateau a pris feu, les quatre personnes qui étaient là se sont noyées, sont mortes, et on a enterré Félix Gaillard le 13 juillet, veille du 14 juillet. Il fallait que le 14 juillet tout le monde soit à Paris ou dans son département respectif. On enterre le 13 juillet 70 à Barbezieux.
Et vous êtes présent.
J'y suis parce que j'étais directeur du journal Sud-Ouest. Bon, donc, et il y avait là des centaines et des centaines de personnes. Puis les obsèques ont lieu dans l'après-midi, il faisait très chaud. Et j'y suis, et après, je vais avec plusieurs autres personnalités, après avoir entendu et la messe et les discours qui étaient nombreux et longs, je vais au café avec... François Mitterrand, Maurice Faure, qui était le patron du Parti radical, deux ou trois autres députés dont j'ai oublié le nom, Pierre Sandrichin, qui était un journaliste politique de grande qualité, qui était à Sud-Ouest, et puis deux ou trois autres confrères, et nous allons prendre des limonades, hein, là, comme ça, pour nous rafraîchir. Et à ce moment-là, un des présents, j'ai oublié son nom, j'ai oublié sa personnalité, pose cette question. Alors, qui le remplace ? Alors, qui remplace
Félix Gaillard
à l'Assemblée ? Et je reverrai toujours François Mitterrand balayant du geste la question comme on chasse un frelon, comme ça, un va-t'en. Et puis à ce moment-là, se mettre à parler de la mort, de la mort de Gaillard, bien sûr, mais de notre mort à tous, puisque nous sommes mortels, c'est la seule certitude même que nous ayons, de la mort, de l'au-delà, de Dieu. Bref, faire une conversation parfaitement décalée, si vous voulez, à l'atmosphère qui était déjà une atmosphère politicienne, etc. Et je me dis, c'est un homme très intéressant, différent des autres. Alors, J'ai commencé par cette anecdote et j'ai poursuivi en rappelant que M. Mitterrand, très souvent, allait voir ses amis à l'agonie comme pour saisir le dernier moment, le passage de l'âme quand elle sort du corps, comme pour saisir ça. Et il avait interrompu un jour un de ses voyages qu'il faisait lorsqu'il était président de la République pour aller voir mon confrère Jean Guiton, le philosophe Jean Guiton, qui a été aussi de l'Académie des sciences morales et politiques, et pour lui demander « Maître, je vous donne 10 minutes pour m'expliquer ce qu'il y a par-delà la mort. » Et Jean Guiton lui avait dit « Mais monsieur le président, il faudrait beaucoup plus de 10 minutes. »« Mais oui, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ?» Et puis dans son livre qui s'appelle « Dialogue à deux voix » avec Elie Wiesel, pendant 60 pages sur la mort, sur l'au-delà, sur la mort, sur la prière, sur ça. Et le beau livre, très beau livre de Madame de Henzel sur la mort. C'est lui qui l'a préfacé. Il a préfacé 4 mois avant sa mort. Une autre anecdote, en 93, la gauche perd les élections, il est au pouvoir, il démissionne pas pour autant, il reste au pouvoir. Peut-être que le général de Gaulle aurait considéré que si la droite avait perdu les élections, il serait parti. Mitterrand raisonnait comme il faut, c'est-à-dire la gauche perd les élections, ben moi je suis président de la République, je reste naturellement, comme Jacques Chirac l'a fait. Et donc il va à ce moment-là, à minuit, il va avec Jacques Attali dans les jardins de l'Élysée. Il parle de la prière. J'ai cité dans mon livre le passage et j'ai écrit, je le cite pour le plaisir, pour mon plaisir, et je l'espère pour le plaisir des lecteurs, pour qu'ils comprennent la complexité des gens. Ce qui est important, c'est la complexité. Ce qui est important, ce ne sont pas des petites histoires dont les journaux sont pleins, qui sont des bêtises, des peccadilles, des sottises. Donc ce qui est important, ce sont les choses essentielles, c'est-à-dire la réflexion d'un homme sur la vie et sur la mort, sur les problèmes importants.
Et François Mitterrand, effectivement, est très empreint de ce questionnement, de cette réflexion, à tel point... Enfin, l'ironie du sort, quelque part, c'est que quelques mois après avoir été élu en mai 81, il sait, en novembre,
Qu'il est atteint d'un cancer. En vérité, 2 ou 3 ans plus tôt, il était allé se faire soigner à Lyon. Et il avait été traité par des procédés chimiques, enfin, chimiothérapie, et il se croyait guéri. Il croyait qu'il était guéri. Et là, rentrant du sommet de Cancun, il revient, il avait souffert du dos, et il passe des examens. Son médecin habituel, le docteur Gubler, juge nécessaire d'aller plus loin, de consulter, fait venir le professeur Steig, qui était un grand professeur de cancérologie, et qui, après, le résultat, c'est qu'il a un cancer de la prostate, à un stade très avancé, avec déjà des progrès très considérables, si bien que Steig, le professeur Steig, parlant au docteur Gubler, le médecin personnel du président Mitterrand, lui dit, dans les cas les meilleurs, c'est 3 ans de vie. Et il va vivre plus de 15 ans, il va vivre avec ce cancer qui ne fera que progresser. Il était évidemment traité et de façon classique et de façon il ira voir des rebouteux. On ne sait pas ce qu'on fait d'ailleurs à ce moment-là. On ne peut pas porter de jugement parce qu'on ne sait pas comment on se comporterait soi-même. Donc il va voir tous ceux qui proposent des médicaments nouveaux, des traitements nouveaux. Mais pendant très longtemps, très 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 longtemps, jusqu'à la seconde opération, celle-là, il avoue naturellement, la seconde opération en 88, là, il cache son cancer. Il interdit qu'on le dise à sa femme, à Daniel. Il interdit qu'on le dise naturellement. Et puis, alors là, vraiment, c'est absolument incompréhensible, 3 ou 4 jours après qu'il soit allé au Vague de Grâce, où là, vraiment, la consultation démontre, les examens démontrent qu'il a un cancer, match publie plusieurs pages dans lesquelles tout est raconté, tout ce qui s'est passé au Val-de-Grâce est dit au mot près, à l'examen près, qui faisait quoi, tout est dit. Et puis ça passe comme si vraiment rien n'avait été dit, comme si on n'avait pas lu le match, alors que c'était lu par des millions de Français. C'est absolument extravagant. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il fait illusion. Et en s'absorbant, si vous voulez, en se mêlant, en étant sans arrêt comme hargneux dans la lutte contre le cancer et dans la lutte pour lui, n'est-ce pas ? Eh bien, il arrive à faire illusion, on ne pense plus à ça et cette histoire de cancer qui s'est étalée dans plusieurs pages de match. On raconte tout, comment la voiture est arrivée, qu'il était sous un nom d'emprunt et on donne son nom d'emprunt, on dit qu'il y avait là comme médecin, etc. etc. Puis, on n'en parle plus. On n'en parle pratiquement plus. Tous les six mois, il y a un faux communiqué médical qui est publié, faux, archi-faux, et ça passe. Et ça passe. Et voilà. Alors bon, il y a bien qui disent qu'il est malade, mais comme on le voyait en activité totale, pleine et entière, et faisant des discours, et montant toujours sur la roche de Solutré...
Oui, déployer une énergie incroyable.
Ça passe. Oui, du courage, du courage.
Vous intitulez ce chapitre sur François Mitterrand « Le faiseur de nuées ».
Oui.
Vous veniez d'en parler, de cette façon de...
Oui, le faiseur de nuées. Qu'est-ce que c'était un faiseur de nuées ? Les faiseurs de nuées, c'est un mot de l'artillerie allemande. Je ne dis pas le mot en allemand, ça n'a pas d'importance, mais en français, le faiseur de nuées, c'était des batteries d'artillerie qui projetaient des obus qui étaient chargés de nuages artificiels qui permettaient de masquer ou soit l'avance, soit la retraite des troupes. Hein, faiseur de nuées. Et Mitterrand a été ça, c'est un truqueur, c'est un faiseur de nuées. Bon, j'ai trouvé ça.
Parce que vous dites, beaucoup de choses auraient pu l'empêcher de devenir président de la République.
Ah ça, oui, mais bon, qui... Mitterrand est le parfait exemple, si vous voulez, de l'évolution d'un homme politique français, qui lui est allé, au contraire de beaucoup, mais les hommes politiques, il est allé de la droite extrême à la gauche, alors que beaucoup de Français vont de la gauche à la droite, lui est allé de la gauche, de la droite extrême, avant la guerre, car il était quand même de tendance Action française, sa famille aussi. Et il était vraiment dans les nationalistes. Et après la guerre, il est fait prisonnier au moment de la guerre. Il revient, il s'évade, il revient, il arrive. Il va en zone non occupée. Pourquoi va-t-il en zone non occupée ? Parce qu'on disait que les prisonniers évadés étaient repris par les Allemands et envoyés à nouveau en Allemagne. Mais s'ils étaient en zone libre, ils n'étaient pas repris. Après, ils cherchent du travail. Il avait des amis qui étaient à Vichy dans des postes ministériels ou en tout cas dans des postes officiels. Il va les trouver. Et lui, il est pour le maréchal Pétain, comme l'immense majorité des Français.
Et des hommes politiques à l'époque ?
Des hommes politiques, c'est une autre histoire, mais à l'immense majorité des Français, c'est aussi une autre histoire. Et comme l'immense majorité des Français, j'ai écrit 10 volumes sur la vie des Français sous l'occupation, et j'ai eu le deuxième, s'appelle « 40 millions de pétainistes », il est à 300 000 exemplaires vendus, hein, et j'ai reçu 3 lettres de protestation, dont 2 commençaient ainsi « Monsieur, je n'ai pas lu votre livre, mais… » etc. Bon, je leur ai envoyé mon livre, je leur ai dit « Lisez-le, et après on pourra en parler », mais voilà, c'est comme ça.
Alors pour revenir à François Mitterrand et à son passé trouble…
Un passé pas trouble.
Ouais, qu'il assumait tout en voulant le cacher.
Non, quand vous dites un passé trouble, mais vous, c'est pas ça du tout. C'est le passé de millions de Français, de vos grands-parents, peut-être, je sais pas. Mais mademoiselle, c'est pas un passé trouble. Jamais, moi vivant, on ne dira c'est un passé trouble. C'est un passé qui n'est pas trouble du tout. Il est pétainiste comme des millions de Français, puis après il est pétino-gaulliste comme des millions de Français, puis après il est gaulliste comme des millions de Français. Puis comme il se brouille avec le général de Gaulle, il est d'abord mitterrandien. Vous comprenez ? C'est pas un passé trouble. Il évolue. Si vous niez l'évolution, vous ne comprenez rien à l'histoire. Rien. Il évolue. Il a évolué. Il a évolué, il est arrivé. Dans son camp de prisonniers, il ne savait pas ce qui se passait. Il arrive, il faut qu'il trouve un travail. Il trouve un travail à Vichy, dans le commissariat aux prisonniers de guerre. C'était pas du tout mal. Et là, il est pétainiste, comme des millions de Français. Comme des millions de Français. Comme l'immense majorité des Français. Et puis après, il va évoluer. Il va sentir que le vent tourne. Comme des millions de Français, il sent que le vent tourne. Et alors, il fait ce que ne font pas des millions de Français. Il part pour Londres. Et ça, il n'y en a pas des millions qui y vont. Hein. Il y en a quelques milliers, pas beaucoup de milliers. Il part pour Londres. Là, de Londres, il est envoyé en Afrique du Nord, c'est déjà en 1943. Le général de Gaulle est en Afrique du Nord. Il ne s'entend pas avec le général de Gaulle. Et le général de Gaulle ne s'entend pas avec lui. Et à ce moment-là, il revient en France. Ce qui était preuve de courage. Hein, car les gens qui engueulent Mitterrand... Sur ces histoires de résistance, ce sont des zigotos, souvent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Et qu'ont fait leur papa ? Bon, il revient en France. S'il est arrêté en France, on ne l'invite pas au Maxime pour aller prendre un verre, pour aller prendre l'apéritif. Il est mis en prison, il est déporté ou il est fusillé. Il revient en France, à ce moment-là, dans la France occupée, dans la totalité, par les Allemands. Bon. Et puis après, il entre en politique. Il se présente... à la députation comme homme de droite, dans la Nièvre. Dans la Nièvre, les journaux socialistes lui font grief de Saint-Francisque. C'est pour ça, quand on dit « on ne savait pas », c'est une vaste blague. Les journaux socialistes de 1946, quand ils se présentent comme députés de droite, ils voient que la droite, ça ne marche pas, et bien, ils passent à gauche. Et c'est... D'autres ont fait un chemin. Le chemin d'un homme politique n'est jamais une ligne droite parfaite, mademoiselle.
Et heureusement. Mais ce passé le rattrape quelque part. On essaie de le faire rattraper. À la fin de son règne, on lui a quand même reproché ces choses-là. On a essayé que ça l'entache. Il a essayé de s'en défendre. Enfin, ça a été quand même la grosse affaire de son fin de règne. Hein,
c'est un faiseur de nuées. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Il peut pas se présenter à gauche, devenir le patron de la gauche en avouant qu'il a reçu la Francisque du maréchal Pétain. Il y avait moins de 3000 personnes qui avaient reçu la Francisque. Bon, et il était dans les 27 plus jeunes. Hein. Bon, alors, c'est-à-dire qu'il était vraiment pour le maréchal Pétain. Bon, il fallait signer un papier, il fallait demander, il fallait signer un papier disant bon, alors après il est à gauche, il faut le nier. Alors comment on ne peut pas le nier totalement, parce qu'il y a quand même les listes, hein, bon. Alors on dit ah oui, mais c'était pour rendre service, c'était un camouflage pour la résistance, c'est de la blague tout ça. Comme il a raconté des histoires, mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui racontent des histoires.
Il a aussi été faiseur de nuées lorsqu'il s'agissait des affaires, des écoutes de l'Élysée.
Écoutes de l'Élysée, il n'a jamais avoué. Il a toujours menti. Il n'a même pas menti. Il n'en a pas parlé. C'est pour lui, ça n'existait pas, ce n'était pas vrai, etc. Bon, il a mêlé à beaucoup de choses. Partant de la droite, il faut toujours penser à ça, partant de la droite extrême, arrivant à la gauche, être vraiment le représentant qui est élu par les communistes, par les socialistes, par les radicaux socialistes, il faut bien quand même qu'il y ait tout un tas de nuées sur toute une partie de sa vie. Mmh. Voilà, il y a des nuées. Alors bon, on va le rappeler périodiquement, et à la fin de sa vie, hein, il y aura le grand truc d'El Kabbach, l'interview d'El Kabbach, assez féroce, lui le torturant, tournant le couteau dans la plaie, et puis Bousquet aussi, dont vous n'avez pas parlé, et ceci et cela, et la Francisque, voilà, et puis...
C'est un homme qui a réussi à s'accrocher au pouvoir malgré toutes les tourmentes. Et d'ailleurs,
s'accrocher, il a été élu et réélu. S'accrocher, ça a l'air de dire.
Oui, c'est quand même
il a l'ambition du pouvoir. Si vous faites de la politique sans avoir l'ambition du pouvoir, ne faites pas de politique. Hein.
On s'est quand même demandé en 1986 ce qu'il allait faire face aux élections législatives qui avaient donné la victoire à la droite.
Eh ben, il est resté. La cohabitation.
C'était quand même pas évident.
Pourquoi ?
Comme
ce
choix.
N'était pas évident. Mais pourquoi ? Il avait raison. Ce n'est pas parce que des élections législatives sont en défaveur de votre parti que vous, président de la République, vous devez démissionner. C'est la thèse du général de Gaulle. On démissionne, mais alors, ça serait sans arrêt, et ça fige la... Pourquoi ? Les Français, alors, ne sont plus libres de leur vote. S'ils savent que votant pour les législatives, ils peuvent faire partir le président de la République, ou faire démissionner le président de la République, alors pourquoi pas pour les municipales, pourquoi pas pour les cantonales, pourquoi pas pour les européennes, pourquoi pas, vous comprenez, ça va plus. Le président de la République est là, élu pour 7 ans, à ce moment-là, maintenant 5 ans, eh bien, s'il y a un changement, et si les élections... Alors maintenant, on a trouvé le truc, les législatives et la présidentielle sont 5 ans dans la même période. Donc
oui,
ce problème de cohabitation est pratiquement exclu. Sauf si le président de la République fait comme M. Chirac, mais nous en parlerons la prochaine fois,
une dissolution.
Dissout l'Assemblée. Alors, là.
Alors pour revenir au règne de François Mitterrand, comme vous l'appelez, en 1986, donc, la droite passe aux législatives, et là, il hésite à se représenter. Vous dites que pendant 2 ans, il a joué un peu au yo-yo sur son éventuelle candidature, qui a été déclarée très tard, d'ailleurs.
Oui, c'est déclaré.
Et il avait le flair politique, vous dites, oui, il avait le flair politique pour sentir que le balancier politique et électoral allait revenir à gauche, hein, 1988.
À gauche. Et puis aussi, il y avait quand même le problème de sa maladie. Alors, il n'a rien demandé aux médecins. Les médecins lui auraient dit ne pas se représenter en 88. Il s'est représenté. Il a été réélu, très bien, avec 54%. 54,2, si ma mémoire est bonne. 54,2, il a été réélu. Et bon, il n'a pas fait énormément d'efforts, ni de campagne. Il voulait se représenter, Il savait très bien qu'il mourrait s'il ne se représentait pas. Un médecin que je connais, qui l'a soigné, et à un moment donné, il avait été réélu président de la République, il voulait tout abandonner, parce qu'il souffrait beaucoup, beaucoup. Et ce médecin lui a dit, Monsieur le Président, continuez. Si vous ne continuez pas, vous allez mourir. Vous allez mourir.
Alors pour parler de la fin de règne, à proprement parler, de François Mitterrand, donc le deuxième mandat s'est fait avec les affres qu'on connaît, avec le suicide de Pierre Bérégovoy, avec la deuxième cohabitation.
Avec Edith Cresson, avec tout ça qui a très mal marché, et avec sa mésentente avec Rocard.
Et vous dites, pour venir au tout dernier moment de ce règne, que François Mitterrand est parti avec gerbes et couronnes avant même sa mort.
Oui.
C'est assez exceptionnel comme fin de mandat, fin de règne, comme vous dites.
Tout à fait exceptionnel. Oui, d'abord, la fin était très mal marchée. Bon, il ne s'entendait pas avec Rocard, depuis toujours il ne s'entendait pas avec Rocard. Depuis longtemps, il a le Rocard Premier ministre parce que, dit-il, c'est le Premier ministre que les Français veulent, mais il est incapable. Il méprisait Rocard et Rocard le méprisait. Et chacun savait que l'autre le méprisait. Vous savourez que ce n'est quand même pas les meilleures conditions pour travailler ensemble. Donc, il tenait Rocard à l'écart et il préparait. Et Rocard est resté assez longtemps au pouvoir, Michel Rocard. Et puis après, il a mis Edith Cresson, qui a échoué totalement, qui a eu contre elle la presse, et le Canard enchaîné, tous les journaux. C'était une femme Premier ministre, ça ne s'était jamais vu. Tout ça jouait contre elle. Elle avait des mots maladroits. C'est difficile de gouverner les Français, c'est difficile de gouverner contre les journaux satiriques, je vous jure que c'est difficile. Contre une opinion généralement ignorante, contre des journalistes généralement ignorants, et c'est difficile. Alors bon, après Bérégovoy, le drame de Bérégovoy, ça a été encore une fois un scandale, l'histoire du pré-Pelat. Bérégovoy avaient accepté de Pellat, qui était un ami intime de Mitterrand. Ils avaient été compagnons de captivité dans le même stalag. Ils avaient été là et ils avaient continué. C'est très fort, des amitiés de captivité. Très, très fort. Quel que soit, c'est beau, quelle que soit votre situation d'art financière, politique, dans la vie, vous êtes un homme très important. Et vous êtes en captivité avec un ferrailleur, un boucher, un boulanger. Et puis, si vous restez 2 ans comme ça avec lui, vous devenez copain et ami pour la vie. Et vous restez. Et Pellat, c'était ça. Il était devenu ensuite très, très riche. Et Mitterrand il avait peut-être aidé à faire sa richesse. Et Pellat avait prêté une somme relativement faible. Quand on pense aujourd'hui aux sommes qui circulent et au bruit que l'on entend, sans intérêt à Bergovois, qui était un homme que j'avais beaucoup d'estime et d'admiration pour M. Bergovois. Je n'ai jamais voté pour lui ni pour son parti, mais c'était un homme qui était parti de rien. Il était parti ouvrier, cheminot, puis ensuite après dans l'EDF, enfin bref, parti sans diplôme, parti comme ça. Ministre des Finances et secrétaire général de l'Élysée, ministre des Finances, ne faisant jamais honte à la France, jamais. Ce qui devait être terrible pour lui, c'est qu'il était entouré d'énarques qui devaient le juger d'une façon impitoyable, terrible, alors que cet homme le savait. Et après, Premier ministre, il a aussi n'a jamais fait honte à la France. Et lorsque le Canard enchaîné a révélé l'histoire du prêt Pellat, sans intérêt, c'était idiot d'accepter cet argent, sans intérêt, idiot. Et après, bon, Bergovois s'est trouvé pris dans un piège effroyable et il s'est suicidé. Des gens disent on l'a tué, mais moi je ne crois pas du tout. Car la gauche, c'était 3 mois avant les élections législatives, 3 mois avant, qui ont été perdues, mais d'une façon dramatique par la gauche. Il lui restait, je crois, moins de 80 députés. Elle en avait 260 ou 280, je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il lui en est resté 80 à peu près. C'était effroyable. Bergovois, qui était mouillé jusqu'au cou dans l'histoire du prêt Pellat. Alors on écrivait, il avait dit qu'il avait remboursé. Il faut lire les journaux de l'époque, les journaux satiriques. On se moquait, disait qu'il avait remboursé en livres anciens. On savait très bien qu'il ne lisait pas des livres anciens et que la culture de ancienne ou même du 18e ou du 17e, c'était pas sa tasse de thé. En meubles d'époque aussi. Bref, tout ça a été un drame et il s'est suicidé. Et c'est dans ce climat que s'est fini la fin du règne de M. Mitterrand avec, enfin, le suicide de Bergovois, la perte des élections d'une façon dramatique pour le Parti socialiste, le Parti communiste aussi, et puis nouvelle cohabitation, 2 ans. Monsieur Balladur. Et Monsieur Balladur, qui a été, lui, avec Monsieur Mitterrand, avec François Mitterrand, un homme très bien. Parce que Monsieur Balladur avait assisté à la fin de Georges Pompidou. C'était un des intimes de Georges Pompidou, un des proches, intime. Un homme politique à peu d'intime, heureusement pour lui. Mais un des proches de Monsieur Pompidou. Il avait vu souffrir Monsieur Pompidou. Et il mettait dans ses rapports avec François Mitterrand beaucoup de délicatesse. Et il pensait toujours à ça. Donc, il y avait le président de la République et il ne cherchait pas de querelles, il ne cherchait pas des choses vachardes, si j'ose dire le mot ici, sur Canal Académie. Et il était comme ça. Et puis, c'est Jacques Chirac qui a été élu. Et Jacques Chirac a été élu.
Est-ce que la façon dont Mitterrand vivait son règne et gérait l'Élysée était si différent du règne de Charles de Gaulle ?
Ah oui, tout à fait. Ah ben tout à fait. Tout à fait. C'était pas du tout la même structure d'homme. C'est pas la même stature d'homme non plus. François Mitterrand était très attaché à l'Élysée, aux honneurs, à tout ce qui, au pouvoir. Je mets ça au pouvoir au pluriel. Hein. Charles de Gaulle était attaché au pouvoir au singulier et Mitterrand était attaché au pouvoir au pluriel. Les auditeurs comprendront, je l'espère.
Alors, François Mitterrand, dans quelles circonstances exactes alors vous le racontez dans votre livre, quitte l'Élysée.
Bon, les Français ont vu ces jours-ci le départ de Jacques Chirac et l'arrivée de
Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy. Eh bien, avant, il y avait eu le départ de François Mitterrand et l'arrivée de Jacques Chirac.
En toute autre circonstance.
Dans les mêmes circonstances.
Dans une autre ambiance, on va dire.
Mais dans les mêmes circonstances, puisque c'était le passage des pouvoirs, mais deux hommes différents. Alors, François Mitterrand, sait que c'est le dernier jour et que Jacques Chirac va arriver. Et Mitterrand va prendre son petit déjeuner, son dernier petit déjeuner à l'Élysée. Vous savez, le jour qui précède votre départ, il y en a des tas d'actes dont vous dites c'est la dernière fois que je touche cette porte, que j'ouvre cette porte, que je ferme cette porte, c'est la dernière fois que je signe tel papier, c'est la dernière fois que je vais m'asseoir dans ce fauteuil, c'est la dernière fois. Il y a des centaines de dernières fois, c'est merveilleux. Moi, je ne vivrai pas ça, mais c'est merveilleux. Alors, comment va-t-il prendre son dernier petit déjeuner? Eh bien, il a une idée. Il ne va pas le prendre avec les gens avec qui il vivait tous les jours, presque tous les jours. Il va le prendre avec Jean d'Ormesson. Pourquoi Jean d'Ormesson, qui est un écrivain de droite, qui écrivait dans Le Figaro, et qui écrit toujours, d'ailleurs, Dieu merci, dans Le Figaro Magazine, mais qui était toujours pointu, mais gentil, parce que c'est un homme charmant, gentil, Jean d'Ormesson, avec un immense talent, bien sûr. Et Jean d'Ormesson
prend son petit déjeuner avec un homme de droite. C'est quand même paradoxal.
Il veut déjeuner avec un écrivain et pas avec un ancien ministre de gauche, pas avec un de ses collaborateurs qu'il a vu tous les jours, pendant des centaines et des milliers de jours. Et il téléphone à Jean d'Ormesson pour l'inviter. Et Jean d'Ormesson croit que c'est une blague. Parce que Dutour, grand talent, et notamment un talent d'imitateur, lui faisait des blagues, imitait des gens comme ça, il faisait des blagues. Et Jean d'Ormesson marchait une fois sur deux, parce que Dutour était un excellent imitateur. Et donc, il est invité. Et il arrive, et il va rester une heure et demie, un petit déjeuner, remarquable, avec des œufs brouillés, paraît-il, admirables. Il faut qu'il soit très bon pour que ce soit bon des œufs brouillés. Et ils vont donc faire ce petit déjeuner dans lequel ils vont parler écriture, littérature. Mitterrand dira du mal de ses collaborateurs. Ils diront du mal les uns des uns et des autres. C'est le grand plaisir de la vie de dire du mal des gens. Et donc, voilà. Il va prendre ce petit déjeuner. Et puis, le temps passe. Il ne reste plus que 20 minutes.
Avant la passation de pouvoir à 11h.
Avant l'arrivée de Jacques Chirac. Et Mitterrand va dire, il me faut 10 minutes pour changer de costume. En 10 minutes, ça sera fait. Encore 10 minutes. Ils vont encore parler 10 minutes. Et puis après, Jacques Chirac va arriver, va descendre de voiture, ralentir son pas. Jacques Chirac est jeune, hein. Il est jeune. Il va donc ralentir le pas pour pas avoir l'air du vainqueur qui fonce et qui rentre là-dedans,
qui déloge.
Et conquis. Et puis Mitterrand va l'accueillir. Ils vont rester une heure ensemble, une heure et demie, pour parler, pour transmettre le code de l'arme nucléaire, etc., etc. Puis après, il y aura toute la cérémonie. Vous savez, M. Mitterrand partira pour aller rejoindre rue de Solferino les socialistes rue de Solferino. Voilà.
Il y a beaucoup d'émotions lors de son départ.
Mais il y a beaucoup d'émotions chez les socialistes. Beaucoup, il se savait très malade, évidemment, il savait qu'il allait mourir. Et il va, pas chez lui, pas rue de Bièvre, mais avenue Le Play, là où il attendra la mort. En recevant d'ailleurs, il va recevoir Raymond Barre, il va recevoir Elie Wiesel, il va recevoir El Kabach, qui reviendra le voir, il va recevoir M. Giscard d'Estaing, il va recevoir comme ça les uns les autres. Et puis, il va revoir, ils vont faire une réunion de vieux dirigeants, des vieux hommes d'État qui avaient dirigé le monde et qui devaient se dire de notre temps, c'était mieux et comment on faisait mieux. Voilà, mademoiselle.
C'était donc La fin de règne de François Mitterrand par Henri Amouroux. Merci beaucoup. Vous pouvez écouter également La fin de règne de Charles de Gaulle, toujours par Henri Amouroux, et La fin de règne de Jacques Chirac. À tout de suite.